L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, en France, l'incompréhension mutuelle entre l'exécutif et les gilets jaunes qui s'apprêtent à manifester une nouvelle fois ce samedi. L'Élysée redoute les pires violences. En Belgique, le gouvernement pourrait tomber à cause du pacte onusien sur les migrations. Ce débat divise le pays. On verra également comment le nouveau gouvernement du Québec de Québec veut réduire l'immigration tout en mettant plus de moyens pour l'intégration. En Suisse, une journée historique avec l'élection de deux femmes dans un conseil fédéral très masculin. Et puis enfin, un nouveau musée au Sénégal, le musée des civilisations noires pour un regard moderne sur l'histoire de l'Afrique. Voici l'actualité francophone. Bienvenue à tous. Ali Bongo, le président gabonais, est absent du pays depuis fin octobre pour des raisons de santé. Eh bien, des premières images ont été diffusées cette semaine pour couper court aux rumeurs, sans totalement rassurer Marie-Pierre Olfan.
Ces images ont été tournées au Maroc, où il est en convalescence depuis quelques jours après avoir passé plusieurs semaines dans un hôpital à Riyad, en Arabie Saoudite. Ces photos et ces vidéos montrent un président assis sur un fauteuil qui semble s'entretenir avec ses interlocuteurs, mais aucun son n'accompagne les images, ce qui alimente les rumeurs sur l'état de santé réel d'Ali Bongo. Certains opposants doutent de sa capacité aujourd'hui à diriger le pays. La délégation officielle gabonaise qui lui a rendu visite à Rabat cette semaine se veut rassurante et affirme qu'il est en pleine phase de recouvrement de ses capacités.
En Suisse, cette semaine, c'est le futur président de la Confédération qui fait parler de lui, Renaud Schüli.
Uli Maurer, président en 2019, en soi c'est banal, puisque la présidence fait l'objet d'un tournus annuel entre ministres. Ce qui surprend, c'est qu'Uli Maurer, membre de l'UDC, la droite souverainiste, a été plébiscité par le Parlement. C'est inattendu parce que l'UDC suscite souvent de la méfiance dans les rangs du centre et de la gauche. Inattendu parce que l'homme n'aime ni la représentation, ni les voyages que suppose l'agenda présidentiel. Inattendu enfin parce que la Suisse doit définir ces prochains mois la nature de ses relations avec l'Union européenne, avec à sa tête le plus eurosceptique de ses ministres. Alors avec ce plébiscite, le Parlement a peut-être voulu dire « Courage, monsieur le Président, vous pouvez le faire ».
Lors des funérailles de George Bush il y a quelques jours, l'ancien Premier ministre canadien Brian Mulroney a prononcé l'éloge funèbre Sébastien Desrosiers.
Il a rendu hommage à son ami qui est décédé vendredi dernier. Les deux hommes ont dirigé le Canada et les États-Unis simultanément entre 1989 et 1993. Proche ami et même confident de Bush, Mulroney a décrit l'ancien président comme un véritable gentleman, un modèle de leadership, notamment lors de l'effondrement de l'Empire soviétique. Vraiment, l'ancien Premier ministre canadien a paru très ému durant la cérémonie de mercredi. Selon lui, George Bush, père, qui a été porté à son dernier repos, restera le président le plus courageux, le plus honorable et le plus respectueux que les États-Unis aient connu.
La mort en France de l'écrivain Joseph Joffaut, son roman le plus célèbre, Un sac de billes, a été vendu dans le monde à plus de 20 millions d'exemplaires, un livre étudié dans les écoles, le récit autobiographique sur la survie de deux enfants juifs, deux frères qui ont fui le nazisme dans la France de la Deuxième Guerre mondiale. Un sac de billes, je l'ai écrit, disait-il, pour sensibiliser les jeunes au danger de l'antisémitisme. Joseph Joffaut avait 87 ans. En Belgique, Nathalie De Vic, c'est l'une des figures les plus marquantes du monde des affaires qui vient de s'éteindre.
L'homme qui valait 6 milliards, Albert Frère, considéré comme l'un des plus riches du royaume. Il avait fait fortune en investissant d'abord dans la sidérurgie wallonne avant de tout revendre à l'État belge et de s'intéresser à peu près à tous les pans de l'économie, surtout à la finance. Mort à 92 ans, ce redoutable capitaine d'entreprise a dû affronter de nombreuses crises tout au long de sa vie. Pourtant, il s'est fait tout seul, comme on dit, en reprenant très jeune l'entreprise de fabrication de clous de ses parents. Un homme discret, génie des affaires, un patron, un baron qui avait su se faire estimer.
En France, l'incompréhension entre les gilets jaunes et l'exécutif. Les manifestants réclament pêle-mêle plus de pouvoir d'achat. Ils réclament aussi le départ du président Macron et l'annulation des futures taxes sur l'essence prévues l'année prochaine. Sur ce dernier point d'ailleurs, Emmanuel Macron a reculé. Les taxes prévues sont bel et bien annulées, a fait savoir l'Élysée. Mais rien n'y fait. Des gilets jaunes envisagent toujours de revenir sur les Champs-Élysées. Depuis un mois, les manifestations en France et particulièrement à Paris sont de plus en plus violentes. Le problème pour les autorités, c'est de maintenir la sécurité de tous. Or, les forces de l'ordre sont très sollicitées. Parmi les gilets jaunes, certaines revendications ont des accents d'insurrection. Prendre le palais de l'Élysée, par exemple. C'est l'objectif avoué de l'un des initiateurs des Gilets jaunes, Éric Drouet, routier. Sur le plateau de BFM TV, il a fait face à l'une des ministres du gouvernement, Marlène Schiappa. Une incompréhension mutuelle entre les deux protagonistes, vous allez l'entendre, résumé dans cet échange sur le plateau télé.
Est-ce que vous, ici, vous vous opposez à la République ? Est-ce que vous êtes des anti-républicains ? Est-ce que vous êtes des factieux, des putschistes ? Ou est-ce que vous condamnez les violences, les dégradations, les attaques,
l'incendie ?
Vous n'avez pas appelé, monsieur, sur votre page Facebook à manifester ce samedi en disant « c'est le bon moment, les forces de l'ordre sont épuisées, il faut y aller ». Vous n'avez pas dit ça, monsieur ?
Oui, parce qu'on veut qu'elle nous rejoigne dans ce mouvement-là.
Vous trouvez que quand les forces de l'ordre sont épuisées, il y a eu 4 morts ? Et vous trouvez que quand les forces de l'ordre sont épuisées, c'est le moment d'aller encore plus les épuiser ? Vous trouvez que c'est responsable comme discours ?
Est-ce que vous avez fait ça, monsieur Drouet ? Vous l'avez fait, vous l'avez écrit ?
Donc, oui.
Vous l'avez dit,
vous l'avez écrit ?
Non,
ah oui, je l'ai dit, oui.
Voilà, l'Élysée redoute donc les pires débordements. Un dispositif exceptionnel de sécurité est prévu ce samedi pour protéger les lieux de pouvoir à Paris comme en province. En Belgique, Nathalie De Vic, la question de la ratification du pacte migratoire des Nations Unies fait vaciller le gouvernement.
En tourloupe, pantalonnade, c'est un surprenant mélodrame qui déchire la majorité gouvernementale autour de ce fameux pacte sur les migrations, pourtant non contraignant pour les pays qui s'apprêtent à le signer. Notre Premier ministre, le libéral Charles Michel, s'y était engagé en septembre à l'ONU, mais son partenaire nationaliste, la NVA, s'y oppose fermement, menaçant de faire chuter le gouvernement. Le Premier ministre s'est alors tourné vers le Parlement, où une majorité alternative a donné son feu vert. Il a donc fini par obtenir un accord parlementaire, mais toujours pas gouvernemental. Beaucoup se demandent du coup ce que Charles Michel va bien pouvoir faire à Marrakech lundi prochain. C'est le cas du socialiste Paul Magnette dans l'opposition.
Il peut y aller, mais ça n'a aucun sens politiquement. Vous avez déjà vu un Premier ministre qui va à une tribune internationale et qui dit « Bonjour, je suis Premier ministre, mais je ne représente pas le gouvernement ». Alors je sais qu'on est le pays du surréalisme.
En ce moment,
on a multiplié les épisodes ubuesques dans ce pays, mais là, quand même, on atteint vraiment un comble. Enfin, on est dans l'absurdité politique la plus complète.
Le Premier ministre a achevé de semer le trouble en déclarant qu'il irait à titre personnel honorer sa parole. La NVA n'a pas manqué de lui souhaiter de bonnes vacances. Un vrai maracrash et encore, le rendez-vous de ce lundi au Maroc n'est qu'une première étape. Suivront 2 semaines cruciales pour la survie du gouvernement à 6 mois des prochaines élections et alors qu'il reste d'épineux dossiers à régler en Belgique. Car l'étape décisive, eh bien, ce sera le vote fin décembre aux Nations Unies à New York du pacte qui divise. Là, il faudra bien que notre pays parle d'une seule voix. Au nom de qui ? Au nom de quoi ? Pour l'instant, l'impasse semble totale.
Le nouveau gouvernement du Québec veut réduire l'immigration tout en mettant plus de moyens pour l'intégration, Sébastien Desrosiers.
Oui, en campagne électorale, le parti de centre-droit de François Legault avait promis d'abaisser le seuil d'immigration au Québec et donc le nouveau premier ministre donne suite à cette promesse. En chiffres, la province aura accueilli près de 50 000 immigrants en 2018 et le gouvernement veut ramener la cible à 40 000 pour l'année 2019, donc 10 000 de moins. Pourquoi ? Bien, tout simplement, François Legault juge que l'immigration est un échec au Québec. Selon les chiffres qu'il a avancés, 26 % des nouveaux arrivants accueillis chaque année quittent la province, soit parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi ou parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer, parce qu'ils ne parlent pas français. Alors, réduire le seuil est donc synonyme de meilleure intégration pour lui, ce qui a inspiré le slogan du gouvernement, si vous voulez. On va en prendre moins, mais on va en prendre soin.
Ouais, alors, tout n'est pas gagné pour Québec. Un affrontement se prépare avec le gouvernement fédéral.
Parce qu'ici, il existe 3 catégories d'immigration. L'immigration économique, la réunification familiale et l'accueil de réfugiés. Alors, parmi ces 3 catégories, 2 sont de compétences fédérales. La réunification des familles et l'accueil de réfugiés sont exclusivement sous la responsabilité du gouvernement canadien qui détermine le nombre que l'on doit en accueillir. Alors, Québec a besoin de s'entendre avec Justin Trudeau quant à la baisse des seuils migratoires, ce qui n'est pas gagné d'avance. Le premier ministre canadien a dit cette semaine qu'il était mal avisé de freiner l'immigration, notamment parce qu'une pénurie de main-d'œuvre sévit au Québec. Mais bon, le gouvernement québécois a les coudées franches selon un récent sondage diffusé par Radio-Canada. Quand il est question de réduction de l'immigration, la majorité des Québécois appuie le projet.
La Suisse a connu cette semaine une journée historique avec l'élection de 2 femmes au Conseil fédéral. Dans un monde politique suisse très masculin, 2 femmes élues, Ron Oshili, ce n'est pas une évidence, hein.
Du moins, ça ne l'était pas, loin de là. Le Conseil fédéral, l'exécutif en Suisse a historiquement mal à sa représentation féminine. Figurez-vous que depuis 1848 et jusqu'à mercredi, il n'y avait eu que 7 femmes élues au gouvernement et seulement 3 du centre et de la droite. Sous forte pression pour corriger le tir, le Parlement qui élit les ministres a donc délivré un message clair. Il a porté au gouvernement 2 candidates au premier tour avec des scores canons, rarement atteints.
Un nouveau musée au Sénégal. Il a été inauguré jeudi par le président Macky Sall dans le centre de la capitale, Dakar. Le musée des civilisations noires a l'ambition d'offrir au public un regard moderne sur l'histoire de l'Afrique, Marie-Pierre Olfan.
Le projet est né avec le président Senghor il y a longtemps donc, mais faute de financement, il est resté des années en sommeil. Il aura fallu 7 années de travaux et 30 millions d'euros financés par la Chine pour qu'il puisse enfin voir le jour. Sa forme ronde rappelle celle des cases de la région de Casamance. Le musée des civilisations noires se veut un lieu dynamique et ouvert au monde, tout sauf un lieu contemplatif qui serait seulement dédié à l'ethnographie. Amadi Bokoum, le directeur, explique pourquoi.
L'ethnographie, c'est fondamentalement l'Afrique subalterne. C'est l'Afrique qui ne veut plus maîtriser son destin, c'est l'Afrique colonisée. Donc, elle est intéressante, elle est importante de faire partie de notre histoire. Mais rapportée à l'histoire générale de l'Afrique depuis Toumaï jusqu'à aujourd'hui, si c'est 24 heures, ça représente peut-être la dernière minute. Donc, on va parler d'archéologie, on va parler même de la production contemporaine, parce qu'on ne veut pas un musée du passé.
L'ambition du musée est de mettre en valeur la contribution de l'Afrique au patrimoine culturel et scientifique de l'humanité. Le musée a été construit sur 14 000 mètres carrés et disposera aussi de salles de conservation, un atout qui aidera peut-être le Sénégal à récupérer ses œuvres aujourd'hui exposées en France. Le président sénégalais s'est prononcé ce jeudi en faveur de l'ouverture d'un dialogue avec Paris sur la restitution du patrimoine africain.
Voilà pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.